Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième émission du Studio 808, toujours en compagnie de Adrien. Comment ça va ?
Ça va tranquille et toi Zayan ?
Eh ben ça va nickel, on est parti pour une nouvelle émission. Ouais. On va récap le mois de mars cette fois-ci, un mois un peu plus calme quand même hein, au niveau des sorties. Il n'empêche qu'on va avoir quand même une grosse émission.
Ouais, alors pour ce mois-ci, on va faire comme le mois d'avant, c'est-à-dire qu'on va faire une chronique chacun. Je vous ferai une chronique sur Green Montana et Zayan s'occupera de vous faire une chronique qui mêle le rap et les sports de combat.
Ensuite, on aura l'incroyable chance d'interviewer Lobo L, champion du monde d'impro, mais pas que, puisqu'il vient de sortir un tout nouveau projet. On vous en parlera au moment venu lors de l'interview. Et on finira comme d'habitude avec le récap de ce mois de mars. On perd pas de temps, on démarre tout de suite. C'est à toi Adrien.
Let's go.
Studio 808.
Donc aujourd'hui, moi j'aimerais vous parler de la carrière d'un artiste que j'affectionne beaucoup. Cet artiste, c'est Green Montana. Alors Green, il est né à Verviers, c'est une petite ville de Belgique. On connaît peu sa vie avant qu'il se fasse connaître sous son nom Green Montana. On sait juste qu'il avait un groupe plus jeune qui s'appelait Montana Squad. Ça deviendra plus tard une ref pour son nom de scène, donc Green Montana, avec Montana pour son ancien groupe et Green pour la beuh. Au départ de sa carrière, il va rencontrer le rappeur Isha, qu'on présente plus, on en a déjà parlé le mois dernier.
Bitume Caviar.
Exactement. Ils vont se lier d'amitié et ils vont commencer à faire de la musique ensemble. Avec l'aide d'Isha, Green il va sortir deux EP de deux titres en 2018. On aura Bleu Nuit et Orange Métallique. Ça marque déjà le début de son univers musical. Il y a déjà une ambiance assez sombre et calme qui va être apportée avec les prods par la voix déjà bien maîtrisée de Green. Une voix posée, généralement grave, mais super mielleuse. Ces deux EP sont aujourd'hui pas très connus, mais Orange Métallique possède un son, c'est Amsterdam, qui reste encore aujourd'hui un des sons les plus connus de Green. Après ses EP, Green va se faire repérer par Booba lors d'une session animée par Mehdi Maizi sur la radio OKLM. Booba demande à Mehdi Maizi de lui faire écouter des artistes chauds. Il lui présente Green et Booba valide direct. Après ça, Green va se faire signer par Booba. Il va ensuite drop quelques sons, dont un sur la relève de Deezer. Faire des sons, c'est bien, mais secrètement, Green, lui, il travaille sur son premier album. Il va mettre 2 ans à le finir, il va y avoir une dizaine de versions de l'album, ça va être un gros travail. Et cet album, c'est Alaska. Alaska, c'est vraiment la carte de visite de Green. Déjà rien que le titre. Le titre, Alaska, c'est froid, c'est sombre. La cover du projet, elle représente le visage de Green d'un côté et son squelette de l'autre. Ça annonce directement la couleur, il y a une noirceur, il y a un vide qui est palpable à travers la direction artistique projetée dans la musique. On retrouve beaucoup de sons sur le projet, de tout type. Il va y avoir des très calmes et sombres, par exemple, je pense à l'intro, Trouble. J'ai les mains pleines de sang, la belle les pieds dedans, des coupes sans paire de gants, des viscères dans les temps. Il va y avoir des sons plus dansants et entraînants, mais toujours avec une part de mélancolie dans les lyrics, comme Ganja. Il va y avoir aussi un feat avec le patron, Booba. Le feat, c'est tout gâché. L'album va être bien accueilli par les auditeurs, mais c'est pas cet événement qui va pousser Green plus haut, ça va un peu le faire connaître, mais pour l'instant, on est loin de ce que c'est aujourd'hui.
Ouais, je suis d'accord, moi j'ai connu Green Montana à ce moment-là, j'avais vu le son tout gâché, mais ça m'avait pas marqué plus que ça, et justement, qu'est-ce qui va sortir après ?
Et bah justement, 6 mois plus tard, Green va envoyer son EP Mélancolia 999, ou Mélancolia 999, c'est comme vous voulez. C'est là où il va passer un nouveau step. Tout d'abord, il va être appuyé par des titres comme Bébé Partie 3, par évidemment un featuring avec SDM, et surtout par le son qui deviendra sa première certif en solo et le son le plus écouté de sa discographie, Fumée Nocive. Pétasse la vie qu'on mène, un putain de phénomène, baby viens je t'emmène. Je respire tout ce pollen, je croyais qu'on se ressemblait. T'as quelque chose à dire sur Fumée Nocive ou pas ?
Fumée Nocive, c'est vraiment un son qui est lourd de fou. J'en ai entendu beaucoup parler sur Twitter parce que je pense quand même que Green a une grosse commu sur ce réseau social. Pour moi, ça marque vraiment ce en quoi représente, on va dire, l'univers de Green, c'est-à-dire une voix apaisée mais qui est réussi à t'ambiancer. Je trouve le son très lourd et c'est là où j'ai commencé à accrocher à cet univers.
Ouais, bah pareil parce que. Perso, c'est là où j'ai commencé à kiffer Green, c'est là où je l'ai découvert. Je vous conseille vraiment d'aller écouter le projet en plus que les quelques sons qui ont bien marché parce que vraiment, il est rempli de pépites. Je pense par exemple à l'intro PJPNMR, au son Magic City 999 avec deux prods super, il y a un beat switch de folie, ou encore avec mon son préféré de Green, Nouveau Monde. Je l'étale comme Jay, si je les connais pas, nous c'est une merde que t'es D'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'écrivais cette chronique, je me suis remis ces projets. Et quand j'ai réécouté Mélancolia 999, je me suis pris comme un aimant. C'est un son aussi. Je l'avais déjà écouté, mais là, en réécrivant, je fais que l'écouter actuellement. Le son est incroyable. Foncez. Après Mélancolia, il va y avoir une période de 1 an où Green travaille encore une fois sur un nouvel album. Cet album, c'est Nostalgia Plus. C'est un gros album, il y a 18 titres. Cet album, il possède 2 feats. Il va y en avoir un avec Guy de Besbar et un autre avec son collègue du 92i, SDM. L'album, il va bien marcher à sa sortie. Il y a beaucoup de sons, majoritairement des sons courts, aux alentours de 2 minutes. Green dira qu'il a maintenant tendance à faire des sons courts parce qu'il préfère, et ça devient un petit peu sa recette.
Alors ça devient un petit peu sa recette, et puis c'est un peu la tendance que prend tous les sons actuellement.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
De faire au plus court. D'ailleurs, on a pu le voir avec les nouveaux extraits qu'il a sortis.
Ouais, exactement. Bah justement, on en parlera un petit peu plus tard, mais pour l'album là qui sortira bientôt, là, et ben, il y a un leaker qui a dit que l'album allait durer, je crois, 42 ou 52 minutes, et il y a 18 sons. Ça fait des sons encore un petit peu courts. Les gens, moi personnellement, je trouve que c'est un bon point. Après, il y a des gens qui peuvent moins aimer, mais je trouve que c'est la recette de Green, on s'y fait. Et plus, je pense qu'à des moments, ce serait même un petit peu lassant.
En fait, avec la naissance des plateformes de streaming, maintenant, on écoute tellement de sons que ça devient, on peut le dire, un peu comme du fast-food. Hein. C'est que chaque semaine, il y a des sons qui sortent. Notre récap, ça, du mois qu'on fait à la fin de l'émission, ça représente un peu ça, hein, cette idée qu'il y a tellement de sons qu'on essaie d'en piocher dans un album 2-3 sons, mais on va pas aller écouter, si c'est pas notre artiste favori, on ne va pas aller écouter tous les sons parce que ça dure trop longtemps. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir des sons comme ça de 2 minutes, des sons un peu expérimentaux, mais qui peut marquer plus rapidement.
Pour revenir sur le projet, j'ai trouvé qu'il était encore plus calme que les autres, et c'est vraiment pas pour me déplaire parce qu'il y a certains de mes sons préférés de Green qui sont dans cet album. Je pense directement à l'outro, le Zen et les Saints, qui est pour moi un de ses meilleurs titres de sa discographie. Sur ce titre, Green se balade sur un piano qui est super bien géré, c'est super fort.
Je me dis que en fait, toi t'es pas le sang, je suis ses fils de pute, il en reste plein blessé. J'ai cette cali qui compense, l'état, je referai le Zen et les Saints.
Il y a le feat avec SDM, Neymar Junior, qui va super bien marcher, ça va faire beaucoup de bruit.
Je crois que j'arrive maintenant, la monnaie m'appelle, yeah, fuck la position. Gros, je joue jamais dans la raquette, yeah.
Toi Zayan, qu'est-ce que tu peux m'en dire sur ce feat ?
Gros banger, ça m'a fait bouger tout l'été. Écoute, même ma daronne bougeait, je bougeais et dansais sur ce son.
Même la daronne de Zayan.
Même la daronne de Zayan.
Si même la daronne de Zayan a bougé sur le son, si vous n'avez pas écouté, foncez-y.
Voilà, franchement, j'aime bien. Voilà, c'est efficace, SDM, super fort.
Ouais, et super alchimie entre les deux. Hein. Vraiment, ça se voit qu'ils sont potes hors son, quoi. Ça se voit.
Alchimie 9-2.
Exactement.
Voilà. C'est-à-dire, c'est là où on voit la puissance de Booba.
Ouais, merci Booba pour les travaux. Hein.
Il chope de super pépites et il va réussir à te créer de ses hits à travers ses pépites. Voilà, SDM, c'était l'exemple parfait. Et Green Montana, je pense que ça va être le deuxième.
Ouais. Comme j'ai dit avant, il y a beaucoup de titres, donc j'ai envie de vous en présenter pas mal. Tout d'abord, il y a Waldorf Astoria, qui est le premier extrait qu'il a sorti avant l'album. Il y a Parfum, aussi un extrait qu'il avait sorti avant l'album, qui a, je trouve, une ambiance exceptionnelle, super calme, super bon délire.
J'espère qu'il prend mes patins, Californie mon parfum, j'ai pas de cœur pour ses tapins, je tousse à chaque matin.
On a aussi Super Héros, Caméra, Ultramax 400, franchement, il y a de quoi faire. Personnellement, c'est mes sons préférés de cet album. Globalement, c'est tous des sons calmes, moi c'est ce qui m'a le plus plu dans ce projet. Après, je vous invite à aller écouter et piocher les sons que vous avez préférés. Un an après Nostalgia, Green sort un nouvel EP de 2 titres, il s'appelle Rouge Néon, et on retrouve les tracks Ginger McKenna et 92i Make Back. Personnellement, j'ai kiffé 92i Make Back, ça va être accompagné d'un clip que je trouve super beau, esthétique léchée, c'est maîtrisé, c'est du Green, franchement c'est super propre. Si je vous parle aujourd'hui de Green, c'est évidemment parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup, c'est un de mes artistes préférés, mais aussi et surtout parce qu'il a annoncé la sortie de son nouvel album Sodad pour le 5 avril. Il a déjà sorti 2 extraits de l'album. On a en premier Phileas Fogg accompagné d'un clip. Personnellement, j'ai pas été hyper conquis par le son au début. Peu à peu, ça commence à rentrer dans ma tête. Mais pour l'instant, on va dire que je reste un petit peu sur ma faim. On a aussi Ishtar qui l'a sorti. Pareil que Phileas Fogg, j'ai apprécié, mais pour l'instant, c'est pas des singles qui m'ont matrixé, j'attends de voir la suite.
Alors, je pense surtout qu'il faut laisser un peu du temps au son,
ouais,
parce que voilà, il y a le temps. Et à l'heure, au jour où, à mon avis, vous écoutez ce podcast, l'album est déjà sorti.
C'est vrai.
Mais ne vous inquiétez pas, pour le mois prochain, au récap, on en parlera vraiment de tout l'album, j'ai moi aussi très hâte.
Mais ouais, franchement, j'attends impatiemment l'album et honnêtement, je m'en fais pas parce que toutes les sorties de Green que j'ai connues, au départ, j'aimais bien, mais j'étais pas impressionné plus que ça et c'est au fil des écoutes que j'appréciais tous ses sons, tous ses projets. Donc même si j'ai pas été emballé par les deux premiers titres, je sais que dans un, deux mois, j'aurais plus écouté ça, j'aurais plus pris le truc et je me fais vraiment pas de soucis pour la qualité de l'album. Pour finir, j'aimerais parler de pourquoi j'apprécie autant Green, justement, qu'est-ce qui fait que je l'apprécie autant. Déjà, je l'ai un petit peu dit avant, mais l'ambiance apportée dans ses sons, c'est super bien maîtrisé, et je trouve qu'il y a peu de gens qui arrivent justement à avoir une patte artistique et qui sont reconnaissables avec leur voix, leur prod et l'ambiance générale de ce qu'ils proposent. Green, c'est pas forcément le mec qui va appuyer sa musique avec des textes percutants, mais c'est pas ça justement qu'on va retenir de lui directement. Par contre, là où il arrive à être monstrueux, c'est l'ambiance de ses sons qui va être amenée par exemple par sa voix. Il y a un charisme au micro, il a une voix qui va généralement être grave, posée. Quand il rappe, tu l'écoutes, quand il chante, tu l'écoutes, et dans les deux cas, tu apprécies. Il traite des termes assez généraux dans le rap, comme par exemple la drogue, les femmes ou l'argent, mais toujours avec une touche de mélancolie, une touche de solitude qui va justement appuyer cette patte Green Montana que j'aime vraiment énormément. J'ai parlé de solitude, justement cette solitude, elle va être appuyée dans sa direction artistique, dans ses visuels. Toutes les covers de ses projets, c'est Green qui est tout seul dans un endroit assez sombre, une planète qu'on connaît pas. Par exemple, on peut le retrouver dans l'espace sur la cover de Mélancolia 999, encore sur une planète tout seul sur Nostalgia Plus. Même dans ses clips, il y a généralement peu de monde, il y a peut-être une femme avec lui, mais c'est souvent lui tout seul qui rappe avec des jolies esthétiques, des jolis plans, on apprécie. Enfin bref, son charisme au micro qui va être appuyé par une voix mielleuse, grave, avec des super top lines, à la fois entraînantes mais aussi superposées. On peut écouter Green dans plein de moods différents et ça c'est une super force. Pour finir, je trouve qu'une des plus grandes forces de Green, et peut-être même sa plus grande, c'est sa capacité à plaire à tout le monde, à tout type de public. C'est-à-dire, les gens qui veulent des sons pour s'ambiancer, il y en a. Les gens qui veulent des sons plus posés, il y en a. Les gens qui veulent des sons love, il y en a. Des gens qui veulent des sons un peu énervés, il y en a. Je trouve qu'il fait la passerelle entre plein de styles différents et qu'énormément de publics différents peut se retrouver à apprécier Green pour plusieurs raisons. Voilà, j'espère que cette petite chronique sur Green Montana vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir l'artiste si vous le connaissez pas encore. N'oubliez pas que son nouvel album Sodad sort le 5 avril, et d'ici là, je vous invite à aller écouter toute sa discographie si vous en avez le temps et l'envie. Je vais maintenant laisser Zayan passer à sa chronique. Let's go.
Transition en...
Dans l'arène du rap, chaque mot est un uppercut, chaque rime est un crochet, et chaque combat est un feat. Alors que ce mois-ci, nous avons eu droit à 3 gros combats de boxe, on peut penser à celui de Benoît Saint-Denis, celui de Cédric Doumbé, nous allons nous demander en quoi la boxe et le rap sont-ils liés. Et vous allez le voir, il y a plus de liens que vous le croyez. Que le combat commence.
Round 1, fight.
En France, le rap et le football sont souvent les cercles les plus reliés, car beaucoup de jeunes rappeurs ont voulu être footballeurs ou inversement. Mais ce n'est pas le seul sport, car le rap et les sports de combat se ressemblent, étant tous deux un symbole pour augmenter de classe sociale. Et justement, c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de crossover entre les deux milieux, et dans cette petite chronique, on va aller fouiller les archives du rap français et américain pour trouver d'où ça a commencé. Je vais vous présenter 3 sons dans lesquels ces deux milieux se relient. Le premier son me venant à l'esprit est le son « Boxe avec les mots » d'Arsenic. Dans le clip, on voit les rappeurs se battre avec ces mots et mettre en scène un vrai combat de boxe où on va les voir défendre leur position. Chaque point sont des mots donnant lieu à de sévères punchlines comparant le rap à un moyen de se battre, mais aussi de gagner en échelle dans la société. La musique est très rythmée, avec des sonorités qui évoquent l'univers de la boxe, comme le frappement des gants, le public qui l'encourage. La batterie est elle aussi très présente et donne une impression d'intensité. Honnêtement, la performance des deux est super énergique. Ils rappent de manière agressive en mettant la puissance dans leur voix. Les paroles poussent le parallèle entre le rap et la boxe encore plus loin. Voici quelques extraits.
J'évite le non-sens comme un virus. Superstar dans le ghetto, comme à la roulette russe. Les taux se resserrent, les crames et le ghetto.
En deuxième, on peut aussi penser au son de Kerry James, un rappeur que j'aime pour son écriture et sa polyvalence. Dans ce son sorti en 2015, Muhammad Alix, il va retracer son parcours à la manière d'un fight de boxe, et évidemment en inspiration avec le boxeur qu'il cite.
Je lâcherai rien même si tu me vois titubé. Puis soudain j'aurai brique, comme la paix je l'éplique, sous mes gants j'ai des briques, chaque coup pour les rendre amnésiques, je t'explique, je fais pas ça pour le fric, je fais pas ça pour le chiffre, respire.
L'ancien de la mafia Cafri envoie des punchlines à tour de rôle, vole comme un papillon, pique comme une abeille. Une citation très connue puisque c'est l'un des entraîneurs de Mohamed Ali qui a pu le dire. Dans le clip, sans doute avec une inspiration pour Arsenic, lui aussi enfilera les gants et monte sur le ring pour combattre toute sa vie entière. On peut le voir en sueur, en train de rapper jusqu'à son dernier souffle. Pas de doute, derrière cette musique introspective et ego trip, on sent l'admiration pour le combattant Mohamed Ali, un réel symbole du sport venant de la Grèce antique. On peut donc voir que la boxe, elle sert pour plein de raisons. Dans les musiques de rap, que ce soit pour défendre les valeurs, ou pour montrer comment Kerry s'est battu pour en arriver là.
Je suis Mohamed Ali.
Et d'ailleurs, ça ne s'arrête pas là, car le grand Oxmo Puccino, en 2009, lui aussi va rendre hommage aux acteurs de ce sport. En effet, dans le son « L'un de nous deux », le rappeur nous place dans la peau d'un boxeur. Porté par un piano, Oxmo nous décrit avec poésie et sensibilité la peur, la pression et enfin la brutalité dans ce sport, où le stress qu'on subit ne doit pas nous ralentir. Une prestation honnêtement assez impressionnante dans la retranscription de ce que peut vivre un boxeur lors d'un combat. En effet, sa plume permet de décrire parfaitement et de manière touchante ce que peut ressentir psychologiquement un athlète dans ces moments-là. Enfin, on peut le dire, c'est un super exemple de ce que le rap peut permettre de véhiculer comme émotion.
Ce soir, l'un de nous deux doit tomber en public, depuis ton visage sur mes miroirs. Couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder, cela...
D'ailleurs, la boxe inspire le rap, mais aussi les réalisateurs de films. Rocky et Creed, évidemment, sont ceux auxquels on pense les premiers. Et pourquoi je vous en parle ? Car dans la BO de ce dernier, il y a du rap. En effet, dans les BO de Creed, on peut passer par des musiques de Tory Lanez, à Kendrick Lamar, et surtout A$AP Rocky avec Run-In dans Creed 2. Et bien sûr, comment ne pas parler de Creed 3, où on peut quand même souligner l'apparition de Dinos, notre rappeur français qui a fait un son nommé Burnout pour la BO de ce film.
D'ailleurs, je tiens à dire que Dinos, c'est pas le rappeur actuellement qui me plaît le plus, même s'il y a quelques sorties qui sont cool, mais j'ai beaucoup aimé le son qu'il avait sorti et j'étais agréablement surpris.
On vous met un extrait maintenant.
Sur le ring y'a plus d'habitude, sur le ring y'a plus d'amitié, je connais pas le number de la police contre tous comme ma gueule.
Alors on a vu ce que les rappeurs font des sports de combat, c'est-à-dire une inspiration pour leur musique, mais il ne faut pas oublier que ces athlètes ont aussi des fois besoin de nos artistes, car ce qu'on appelle les walkouts, donc les entrées des boxeurs dans l'arène, ça se fait toujours avec une musique, et quoi de mieux que du bon gros rap bien motivant pour entrer et faire peur à ton adversaire. Au rap US, je peux citer le combat de 2017 entre Floyd Mayweather et Conor McGregor. Floyd arrive dans l'arène avec le son I'm a Boss de Meek Mill et Rick Ross. Pas de secret, pas de surprise, une instru épique. Meek Mill envoie tout sur leur morceau et d'ailleurs, s'il a choisi ce son, il y a une bonne raison, Floyd y est cité. Attention, je parle en anglais, préparez-vous. At the fight, we watching Floyd, we on the floor. Donc voilà, vraiment l'idée d'ego trip, où la foule le soutient, parfait pour un début de combat. En deuxième gros son de walkout, le GOAT Mike Tyson, avec une musique que Tupac lui a écrite spécialement pour le combat contre Frank Bruno en 96. Dans ce son, Tupac va parler de lui et son pote Tyson. Dans le refrain, il explique que chaque coup qu'il prend est destiné à une douleur spécifique. Je vous traduis et je vous mets l'extrait juste après. Mon premier round est pour le temps que j'ai passé dans une cellule. Le deuxième round pour les médias et les mensonges qu'il raconte. Le troisième round pour la douleur que j'ai ressentie à l'intérieur. Pour l'anecdote, il faut savoir que Tupac fait référence dans ce son aux peines de prison que les deux ont reçues. Il explique que ce sont des mensonges. Bon voilà, c'est pas à nous d'en juger, mais je vous laisse l'extrait. Alors oui, le rap US, mais on a quand même eu le droit à quelques entrées sur du rap français. Cédric Doumbé contre Jordan Zebo, où il va entrer sur l'instrumental de Bafana Bafana de La Fouine. Et d'ailleurs, évidemment, ce n'est pas passé inaperçu du côté de Booba, mais bon, parlons pas de ça. Enfin, on peut citer Cyril Gane contre John Jones, où il entre sur Zoo de Caris. Entrée super épique, dommage que le combat ne l'a pas été. Je finirai cette chronique avec une étude de Rap Miners. Merci à eux déjà, c'est grâce à eux que j'ai eu l'idée de cette chronique. Dans cette étude, on peut avoir le nombre de fois que les combattants ont été cités dans le rap français. On part de Cyril Gane, qui est cité 10 fois dans le rap français, à un top 3 avec Conor McGregor, cité 74 fois. Le top de Floyd Mayweather, cité 90 fois. Et enfin, évidemment, Mohamed Ali, 163 fois. Vraiment, il est hors concours, le gars. Au final, je ne m'imaginais pas qu'il y avait autant de liens entre ces deux disciplines, en apparence éloignées, mais en réalité qui partagent de nombreuses valeurs fondamentales comme la détermination, l'esprit de compétitivité et de réussite. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à nous faire des retours de la chronique sur l'Insta du troisième lieu. Et on passe à la suite.
Transition en...
Et c'est parti, on est là pour l'interview avec Loboel. Comment ça va, Loboel?
Ça va très bien, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien aussi de votre côté.
Eh ben ça va super, merci. Adrien, t'as une première question?
Ok, super. Eh ben tout d'abord, on va te demander justement de te présenter, de nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais et d'où tu viens.
Alors, je suis Loboel, je suis un rappeur de Nancy. Nancy, si vous savez pas trop où c'est pas dramatique, mais c'est une super ville qui est située au nord de Lyon, pas trop loin de la Belgique, du Luxembourg. Je suis un rappeur depuis une bonne quinzaine d'années et je vis grâce au rap depuis 4 ans parce que je fais notamment des ateliers d'écriture, c'est ça qui me fait gagner ma vie. Et voilà, je rappe, je fais des improvisations, je fais quelques instrus, j'organise des événements, j'anime des open mic un peu, je peux faire DJ. Voilà, je suis un polyvalent pied droit, pied gauche du rap, quoi.
Alors on va en parler plus tard. Aujourd'hui, t'es là parce que t'as sorti ton projet Tout est sous contrôle il y a déjà quand même pas mal de temps, hein, le 16 février. T'as aussi sorti dernièrement le 29 mars le clip du même titre éponyme Tout est sous contrôle.
Tout est sous contrôle, service complet. Entrée plat dessert, c'est pas du talent, c'est de la démerde. Les cartes, c'est moi qui les pioche.
Yes.
D'ailleurs, tu viens de finir ta tournée, on en parlera un peu plus tard. Mais pour revenir à la base, t'as commencé la musique en groupe, notamment avec Coachet. Est-ce que tu peux nous présenter un peu tes débuts, d'où ça a commencé un peu cette passion du rap?
Ok, depuis que je suis petit, moi je suis né en 94, quand j'étais au collège, je me souviens même en primaire, The Eminem Show en 2004, je me souviens qu'au petit-déj, j'avais les paroles du CD d'Eminem, je les lisais à table, j'essayais de rapper par-dessus le CD, donc j'ai toujours kiffé le rap, Génération Skyrock des années 2000, tu connais, c'était ça. Après, quand je suis arrivé au lycée, j'ai commencé à rapper, à écrire dans mon coin. Il y a d'autres copains qui faisaient un peu pareil au même moment, donc ça a été plus facile, une bonne émulation. On s'y est tous mis, on s'est tous tirés vers le haut les uns avec les autres. Je connaissais un gars qui s'appelle Coachet depuis que je suis tout petit. Je l'ai retrouvé à cette période du lycée, il rappait aussi, fort bien d'ailleurs. Et du coup, c'est devenu mon pote. On a formé un premier groupe genre vers 2013. Puis vers 2015, on a fait un autre groupe, les gars du coin, où là on était une bonne douzaine minimum de rappeurs en tout genre.
C'est le nom de ton collectif, non? Il me semble.
Ouais, c'est ça, voilà, LGDC, les gars du coin. Et maintenant, on est un collectif un peu moins... On n'est plus sur scène en même temps, chacun s'est un peu mis dans son coin parce que tu connais, on grandit, chacun fait sa vie, il y en a qui arrêtent le rap, il y en a qui déménagent, etc. Et là du coup depuis 4 ans, on a une formule Lobo et Coaché, que ce soit à la scène, on fait plein de concerts, ou que ce soit dans notre job qui est du coup faire des ateliers d'écriture un peu partout.
Alors justement dans ton projet tu dis... Rapper en famille, c'est le gros lot. D'ailleurs, on l'a pu souvent le voir dans tes stories dans ta dernière tournée. Déjà, félicitations. Comme tu l'as dit, 2700 km en un mois, 12 dates.
Ouais.
C'est quoi aujourd'hui le rôle que va t'apporter Coachet dans ta carrière?
En vrai, on est le double. Là, c'est moi qui étais en avant parce que c'est moi qui sors un EP. Mais le jour où il sort un EP, moi, je suis son ombre, en fait. On est exactement l'un et l'autre. On avance ensemble parce qu'on est meilleur, parce qu'à deux, on délire plus. Mais vraiment, Coachet, c'est pas mon backer. Ou alors, si c'est mon backer, c'est mon backer quand c'est un concert Lobo. Et moi, je suis son backer quand c'est un concert Coachet. Vraiment, c'est mon binôme de rap, comme, je sais pas, Kaba Jean-Jas un peu. Bien sûr, à toute proportion gardée. Hein. Mais voilà, c'est mon binôme de rap, quoi. C'est mon meilleur pote, c'est mon binôme de rap. Donc son rôle, ça va être de me faire chier quand mes paroles sont pas assez bien. Ça va être de m'aider, on se répartit le taf pour faire un milliard de choses différentes et pour être plus efficace. Ça va être de bien se connaître sur scène. Si je sens qu'il a un coup de mou, je remets un coup en plus, un coup de collier, et inversement. Voilà, c'est ça notre rôle respectif, un gros binôme, quoi, un bon duo, comme toi et Adrien derrière les manettes.
Et puis comme tu dis, ça fait longtemps que vous vous connaissez, donc maintenant, à mon avis, ça doit être fluide de travailler ensemble, de faire du son, ou pour toute autre chose, ça doit être fluide, ouais.
Ouais, clairement, c'est plus simple. Et après, ce qui est dur, en fait, c'est comme dans tous les couples, je suis pas un expert pour parler du couple, mais faut quand même si tu te connais très bien, faut toujours se draguer un peu tous les jours, toutes les semaines, faut pas se reposer sur les acquis, et on essaye de faire ça quand même, et puis de beaucoup parler, ça je pense que ça peut servir dans toutes les situations, parler, verbaliser, on vit les mêmes moments. beaucoup de mêmes moments, mais en fait, chacun les vit de sa manière différente. Donc, c'est toujours. Faut parler pour que ce soit fluide, ouais. Faut bien parler, bien échanger.
Pour en revenir au projet que tu as sorti, on voulait savoir comment t'en es venu justement aujourd'hui à faire ce projet-là. Combien de temps ça t'a pris? Est-ce que c'était compliqué? Dans quelles conditions est-ce que tu l'as fait? Est-ce que c'était très rapide? Est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure? Explique-nous.
Eh ben, moi, ça fait longtemps. Comment ou pourquoi? C'est parce que je suis un rappeur, j'aime le rap, j'ai envie de sortir des projets, j'ai envie de montrer tout le temps ce que je fais. Plus je sors des morceaux sur le net, plus il y a des gens qui peuvent me découvrir, que ce soit vous, que ce soit des programmateurs, des festoches, etc. Donc, je suis toujours dans cette démarche. Là, c'est mon 8e EP, juste en solo, mais du coup, à deux ou à plusieurs, je crois que c'est peut-être mon 14e ou 15e EP. Et du coup, pour moi, c'est important de toujours nourrir, pour après avoir des répercussions. Si tu fais rien, tu peux pas gueuler qui t'arrive rien, parce que même en faisant, c'est pas dit qu'il va t'arriver quelque chose. Donc ça, c'est un peu ma position. Et l'EP, c'est venu plus ou moins pendant le confinement ou un peu après. J'ai sorti plusieurs EP depuis le confinement, mais celui-là, ça fait un bout de temps que je voulais faire quelque chose de bien construit, qui me correspond au maximum dans les thèmes, dans la musicalité, etc. Du coup, j'ai pas tant réfléchi, j'ai pas fait un tableau Excel en disant je veux un morceau comme ci, comme ça, comme ça. J'ai attendu d'avoir 3, 4, 5, 6 morceaux et je les ai compilés parce que je trouvais qu'ils se ressemblaient, qu'ils avaient une bonne cohérence entre eux. Et tout se fait avec mon gars qui s'appelle Tom Deltruc, un jeune beatmaker de Nancy qui est très très fort. Si vous écoutez le projet, je pense que les instrus, elles parlent d'elles-mêmes. Donc voilà, ça a pris quand même, je dirais, entre l'écriture du premier morceau fin 2021 et là ça sort en 2024, ça prend quand même v'là le temps, mais c'est volontaire aussi. J'aurais pu aller plus vite, mais je voulais prendre mon temps pour faire les choses bien.
Voilà, pour que ce soit quelque chose qui te ressemble pleinement et quelque chose auquel t'es fier, quoi.
Ouais, et puis là je te dis, c'est mon 8e EP solo, j'ai honte de rien, mais je vais pas clamer haut et fort, je vais pas montrer à tout le monde mon premier ou mon deuxième ou quoi que ce soit. Et là j'ai envie, maintenant dès que je fais des EP, je commence à me connaître, j'ai trouvé ma voix VOIX un peu dans les morceaux, donc je veux que les morceaux on puisse les réécouter dans 4, 5, 20 ans idéalement. Je sais pas si j'ai cette prétention, mais mon EP tu peux te le remettre dans 2 ans, je pense que ça va, il sera pas encore totalement obsolète comme peuvent l'être mes première chanson.
Tu décris cette EP comme du néo-rap conscient. Qu'est-ce que ce mot, ça signifie pour toi aujourd'hui?
Ça signifie que, en fait, pour moi, plus ou moins à la base, tous les raps, c'est un peu du rap conscient. Le rap conscient, c'est presque un pléonasme parce que à la base, moi, j'entends le rap des années 90 français ou américain comme quelque chose de très dénonciateur dans le message. Et aujourd'hui, on a beaucoup perdu ça. Je dis pas que c'est pas bien parce que moi, je suis le premier, j'ai écouté que Kra là toute la matinée. Je suis le premier à m'ambiancer sur tout, n'importe quoi. Si je trouve que c'est bien fait, si mon oreille trouve que c'est bien fait, mais j'ai envie d'ambiancer les gens, mais j'ai envie de garder ma plume, mes idées, mes valeurs, rester fidèle à tout ça. Du coup, je dis néo-rap conscient parce que des fois, il faut se mettre dans une case. Ça aide les gens à savoir ce qu'ils vont écouter. Et on est énormément de rappeurs, rappeuses sur le marché. Donc, si tu peux un peu mâcher le travail des gens, savoir à quoi ils ont affaire, c'est toujours intéressant. Et du coup, moi, je dis néo-rap conscient parce que c'est du rap conscient, comme pouvait le faire Assassin, IAM, peut-être la Funky Family à certains moments. Mais tu peux ne pas t'en rendre compte direct. Tu peux juste ambiancer. Puis au bout d'un moment, tu réécoutes la chanson plus précisément. Et en fait, il y a plein de balles perdues, il y a plein de messages qu'on essaye de faire passer de près ou de loin. Et j'ai pas toujours assumé ce côté-là, mais là, j'assume de plus en plus. Pour moi, le rap, on prend la parole dans l'espace public, ça, c'est faire de la politique, qu'on le veuille ou non. C'est participer à la vie de la ville, de la communauté, etc. Donc, j'essaye d'assumer de plus en plus cette chose-là. Je suis pas d'un bord politique ou d'un autre, mais j'ai mes opinions et j'ai envie de les faire entendre.
Ouais, c'est ce qu'on voit. Déjà, je pense. Le fait que tu te mettes dans une case comme ça, néo-rap conscient, ça a participé à ce qu'on soit intrigué par toi et même ton projet en général. Je pense que c'est une bonne chose. On te voit en story aussi défendre des causes. Donc on va parler là tout de suite de Zineb Redouane, mais aussi sur Instagram, voilà, tu n'hésites pas à parler de la Palestine, ce genre de choses. Est-ce que pour toi, donc pour rappeler quand même, Zineb Redouane, c'est un son dans ton projet, donc le son c'est Chaos Technique, où tu vas parler de la mort de Zineb pendant une manif des Gilets jaunes.
Zineb Redouane, 80 piges, est mort chez elle au 4e étage. Le flic a tiré, a pas pris un tige, toujours les mêmes pour nettoyer l'étage.
Est-ce que pour toi, le fait d'être un rappeur, néo-rap conscient, mais juste un rappeur en général, ça permet de mettre en lumière ce genre de conviction que tu as ou ce genre d'histoire?
Ouais, je pense que ça le permet totalement. Dans tous les cas, avoir un micro, avoir un auditoire aussi petit qu'il soit, ça permet toujours de mettre en valeur des choses, des événements qui ne le sont pas toujours. Moi, j'ai envie de dire, je ne choisis pas. Si je choisis, mais je ne me suis pas dit, je vais faire mon EP, on va parler de telle affaire où la police a abusé. On va parler de telle affaire d'injustice ou d'oppression ou quoi que ce soit. C'est en faisant le morceau, en faisant les morceaux, c'est des thèmes qui ressortent, mais je ne choisis pas de dire, vas-y, là, il y a Gaza, je vais faire un morceau sur Gaza ou quoi que ce soit. C'est pas quelque chose de calculé, c'est plus quelque chose qui ressort de mes discussions régulières. Et au bout d'un moment, bah, à force d'en parler avec des potes, avec de la famille ou quoi que ce soit, ça finit par être des morceaux. C'est plus comme ça que je le ressens. Okay. Par exemple, Zineb Redouane, là, le morceau, il s'appelle Chaos Technique, volontairement, parce que j'ai pas envie de... C'est pas un hymne à Zineb Redouane ou quoi que ce soit. J'ai envie de mettre un petit flou artistique. Je trouve ça plus poétique. Je veux pas faire le gars qui se la pète ou quoi que ce soit, mais c'est juste... Je trouve ça plus beau. Moi, Louis, jeune rappeur, je trouve ça plus beau de camoufler que mon morceau. Je veux pas qu'il s'appelle Tous Unis Derrière Gaza. Je préfère qu'il s'appelle, je sais pas, Les Fleurs du Mal ou je sais pas quoi. Je préfère, ça me parle plus en tout cas en tant qu'auditeur, donc c'est ce que j'essaye de faire en tant que rappeur. Et quand je fais le morceau Chaos Technique, à la base, le premier couplet que j'écris, on parle pas de Zineb Redouane dedans. Et après, coaché, on en avait parlé le matin, etc. La veille, c'était la date anniversaire de la mort de cette dame. Et du coup, bah, on change un peu les paroles à force de nos discussions, mais on part pas en se disant, viens, on va faire un morceau pour dénoncer ceci ou cela. Ça arrive un peu comme ça, quoi, au fil de la plume.
Pour parler de quelque chose de plus large au niveau de ta carrière, t'as été champion du monde d'improvisation en rap en 2019.
Ouais.
On peut dire que t'es un des meilleurs dans ce domaine. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça t'aide encore pour faire des sons? Si oui, comment?
Je pense que ça m'aide parce que, en tout cas, ça me dessert pas. C'est pas quelque chose, c'est une des qualités. Moi, je considère toujours un peu, moi, en tant que rappeur, je me vois comme sur FIFA. Tu sais, quand tu joues à FIFA, t'as Mbappé, t'as la toile d'araignée. 99 en attaque, 96 en finition, 70 en défense, etc. Bah, moi, je me sens comme ça. En impro, j'ai peut-être 90. En parole, en écriture, je sais pas, j'ai 80 ou je sais pas quoi. Par contre, quand t'arrives dans la mélo, j'ai 60. Quand t'arrives dans, je sais pas quoi, j'ai 30. Et du coup, j'essaye toujours un peu d'équilibrer ça. Mais l'impro, ça m'aide à trouver des paroles facilement, spontanément. Mon cerveau, il y a des trucs qu'il sait faire, il y a des trucs qu'il sait pas faire. Trouver des paroles, trouver des mots, trouver des flows sur des instrus, ça, je sais le faire. Ça veut pas dire que c'est bien quand je les trouve, mais ça veut dire que je peux trouver facilement. Donc, c'est sûr que ça m'aide. Et ça aide aussi des fois juste en freestylant, en impro. J'improvise beaucoup, beaucoup avec des gens. Et ben, je vais garder la rime dans un coin de mon cerveau, la nouvelle rime que j'ai trouvée. Je vais souvent me mettre en scène, même dans des petits comités avec des copains ou quoi que ce soit, et si j'ai un carnet, je peux reprendre ce que j'ai noté. Ça m'aide en fait. Verbaliser, ça aide en fait. Si tu gardes tout dans ta tête, bah tu sais pas à quoi ça ressemble au moment venu. Alors que si tu improvises, ça veut dire que tu parles à voix haute, comme je suis en train de faire là en ce moment, et ben ça m'aide à trouver des. Ça aide. Je pense, j'espère que je suis compréhensible quand je dis ça, mais voilà. En fait, improviser, c'est rapper à voix haute, et plus je rappe à voix haute, plus je rappe, logiquement, mieux je rappe parce que plus je fais d'erreurs et plus j'apprends de mes erreurs.
Justement, bah, tu parles d'impro. Moi, je voulais parler de tes ateliers d'écriture que tu fais partout, un peu partout, donc en centre pénitentiaire, en école, en université. D'ailleurs, en infocom, il me semble, en licence information.
Ouais, j'ai fait un moment, j'étais plus ou moins... Ça n'a pas duré longtemps, mais j'étais presque prof sur l'écriture en infocom, mais j'ai donné 3 cours. Et après, sinon, plutôt des gens à la fac, sciences humaines, mais pas que.
Ok. Et bah, qu'est-ce qui t'a mené à faire ça? Qu'est-ce que ça t'apporte?
Ce qui m'a mené, c'est la base. Faut trouver un métier, faut trouver un job. Moi, j'étais bibliothécaire jusqu'au Covid. Enfin, je commençais à être bibliothécaire, même si je suis pas diplômé dans cette branche. Depuis qu'on fait des concerts, donc depuis une paire d'années, genre déjà 2016, j'ai dû faire mon premier atelier d'écriture parce qu'à la fin du concert, il y a des filles qui viennent nous voir. Ah salut, on a une asso, on intervient en prison. Est-ce que vous voulez venir faire un atelier d'écriture en prison avec votre groupe? On a dit oui, mais on savait pas ce que c'était un atelier d'écriture. On est arrivé, on nous a donné des stylos, et vas-y, bah, on a parlé avec les détenus, on a essayé d'écrire des textes. J'ai vu que ça me plaisait, j'ai vu que beaucoup de fois on nous a sollicité là-dedans, que je prenais de plus en plus de plaisir, ça me permettait de gagner de l'argent, beaucoup plus facilement qu'en faisant un concert ou du streaming. Pas non plus des milliers des cents, mais c'est très très dur de faire du stream et des concerts aussi. Donc c'était la voie qui m'allait bien, et qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte, je crois que j'ai beaucoup de chance, parce que rares sont les gens qui, comme coaché ou moi, ont la chance de voir un peu toute la société. Moi, je pense qu'on nous oblige ou presque à faire un service militaire. Je suis pas fan du tout, mais au moins, un des seuls avantages, à mon sens, c'est que tu rencontres des gens de partout. Que tu sois fils de paysan, fils de policier, fils de prof, fils de bourgeois ou de prolétaire, tu te retrouves dans la même pièce, si ce n'est dans la même unité pendant un bout de temps. Et ça, c'est cool, parce que sinon, on reste dans l'entre-soi. Tu vois que les gens de ton pavillon ou que les gens de ta banlieue, etc. Et nous, avec Coaché, du coup, on voit des jeunes, on va dans des écoles privées, donc avec un peu de moyens. On va dans des écoles en REP+, donc les élèves sont et les parents ont très peu de moyens. On va en prison, on va avec des jeunes handicapés, moteurs, physiques, psychiques, tout ce que tu veux. Et ça, c'est ce que ça m'apporte, c'est que je vois énormément d'humains différents. Je les écoute beaucoup, donc j'apprends beaucoup d'eux. Et ça, c'est une force de ouf. Ça veut pas dire que je vais ramener ma grande gueule H24 et tout raconter, mais je fais bien l'éponge. Et il y a plein de sujets, plein de diversités différentes que je peux maîtriser davantage. Égoïstement, ça m'apporte dans mon rap parce que je peux parler de choses plus vastes, d'un panel plus vaste. Ça m'apporte des journées super variées. Demain, je rappe dans un musée avec des potes qui font du BMX en même temps. Juste après, je vais faire des rap, des poésies pour faire visiter ma ville de Nancy en impro et en texte à des familles. La plupart, ils ont entre 60 et 80 ans. C'est ça que ça m'apporte et c'est ça que j'adore. Je pense que tu peux voir que je kiffe parce que je suis très bavard quand il faut parler de ça, quoi.
Mais non, mais y a pas de souci. Franchement, déjà, juste ton CV, il est impressionnant. Enfin, quand on a lu un peu ta comment on appelle ça, ta revue de presse, ta...
Ouais, c'est ça, dossier de presse, voilà, comme tu veux, quoi. Ouais.
Quand on a vu ton dossier
la vitrine.
Voilà, ta vitrine, bah, c'était impressionnant. T'as fait un album commun, NKBOM, voilà, avec des rappeurs, producteurs africains. Ensuite, t'es parti en tournée. Je pense que ça doit être des souvenirs mais incroyables.
Bah ouais, de ouf. Après, moi, je suis, j'aurais toujours soif. Hein. Je suis un puissant fond, donc je suis intarissable. J'ai envie de continuer de ouf. Mais je sais toujours que si demain, ma carrière s'arrête là, sans avec un petit C, quoi. Mais comme chacun a une carrière, c'est pas un gros mot de dire ça. Hein. Tu peux avoir joué 10 minutes en Ligue 2 ou gagné 5 Ligues des Champions. T'as une carrière, quoi. Bah moi, si ma carrière s'arrête demain, c'est bon, j'ai déjà rappé dans 7 pays, je crois, bientôt 8. Je vais en Albanie le mois prochain. J'ai fait des feats avec des rappeurs que j'écoutais quand j'étais petit, plus ou moins. La vie, c'est beau, quoi. Moi, j'ai fait beaucoup plus que ce que j'aurais jamais espéré faire un jour, donc je suis très très content.
Et pour finir, en quelques phrases, est-ce que tu pourrais nous présenter ton projet, dire qu'est-ce que tu aimes chez lui et justement simplement donner envie aux auditeurs d'aller l'écouter.
Aux étudiants de Lyon 2.
Ok. Alors, ça s'appelle Tout est sous contrôle. C'est 6 titres. Déjà, ce qui est cool dans le projet, c'est que souvent les rappeurs, on se la pète, mais en vrai, on est que des petits. On est les petites mains des beatmakers aussi. Et le beatmaker, il fait 50% du taf, si ce n'est 80% du taf. Ouais, le beatmaker que j'ai, il est vraiment incroyable. Il est trop chaud. C'est très varié, je trouve. T'as boom bap, t'as un peu plus. Trap, pas drill, mais pas loin, c'est quand même bien influencé. Tu retrouves des vrais instruments, t'as de la trompette, il y a un beau solo de trompette sur un morceau qu'on a samplé pour faire une intro. T'as une belle ligne de basse sur un autre morceau. Il y a des featuring, pas beaucoup, mais avec des rappeurs qui tuent sa mère. Il y a un gars de Montpellier qui s'appelle Apéro Jazz. Rien que t'entends son blast, tu sais qu'il est trop fort. Et je trouve que ça change un peu. Moi, ce qu'on m'a déjà dit, c'est que genre, les morceaux, tu peux t'ambiancer. Mais on dit des trucs un peu des dingueries. Tu peux pas normalement t'ambiancer en disant « Mon voisin dénonce je sais pas qui chez les flics » ou bien « Mettez des gilets pare-balles pour les facteurs parce que bientôt on leur tirera dessus ». Tu peux pas t'ambiancer en disant ça. Et pourtant, nous, on essaye de faire ambiancer les gens en disant ça. Et en tant que gars qui a squatté beaucoup à la fac de ma ville, je pense que j'essaye de faire le genre de rap que j'aurais kiffé écouter quand j'étais à la fac. Et c'est gratuit, ça coûte rien d'écouter si t'as déjà ton abonnement Spotify. Et même ne payez pas Spotify, prenez la version avec les pubs parce que les artistes, on est très peu payés, donc on s'en fout, ne leur donnez pas de thunes. Et sinon, qu'est-ce qui est beau, il y a l'artwork qui est beau aussi, c'est une amie qui l'a fait. On le voit sur une petite pochette dans un coin en bas à gauche sur Deezer, mais c'est une peinture qui fait 1m70 sur 1m70 qu'on a ensuite réussi à numériser. On s'est trimballé partout avec 2700 km, Grenoble, Toulouse, Bruxelles, Paris, Strasbourg. Voilà, on se fait chier pour mettre de la bonne musique. Alors, n'hésitez pas. Et là, on a un clip. On a réussi un score exceptionnel. Demain, ça fera une semaine qu'il est sorti. On a bientôt 800 vues. Alors que tu mets Gazo à ma place. Franchement, le clip, il fait 300 000, 400 000 parce que le réal, il est très, très bon. Le réal est vraiment très, très bon. Donc, voilà, allez écouter si vous êtes chaud. Je suis moins bavard sur mes EP ou en tout cas, quand je parle, c'est peut-être plus agréable que ma voix monotone. Mais voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller écouter ça. Si les gars de la radio, ils valident, c'est qu'il faut écouter. écouter. Hein. De toute façon, c'est simple.
Et bah écoute, bah, gros SO à toutes les personnes qui ont pu travailler sur ce projet avec toi. Merci à toi de nous avoir accordé ton temps pour nous parler du projet.
Avec plaisir, les gars.
Allez écouter, les gars. Faut donner de la force, vraiment. Pour ce genre de personne qui donne tout, qui va à la fac, qui fait plein de choses. Franchement, bravo. Bravo Lobel pour ça.
Merci, merci Adri et le Z.
Merci, merci.
Bref, on reste toujours fresh, toujours flex. Dans les clics, une place au soleil, on s'éclipse.
Transition en...
On commence directement avec la première semaine. On a PLK et Maes qui sort For Motion. Moi personnellement, voilà, l'ambiance du son et tout, j'aime bien, mais ça va pas plus loin. La promotion du son aussi derrière qui est un peu catastrophique avec le clash entre les deux. Adrien, t'en as pensé quoi ?
Ouais, c'est vrai que comme tu dis, bah, au niveau de la promotion là, avec leur clash, ça a été catastrophique. Personnellement, quand ils ont sorti ça, j'avais même pas eu l'info. Après, quand j'ai écouté, j'ai pas trouvé ça mauvais. En vrai, c'est du Maes, c'est du PLK. J'ai pas forcément kiffé, même si la partie de PLK était pas mal, je trouve. Mais je pourrais pas dire que ça avait été une claque pour moi. On a aussi Rimka, Tiff et Sofiane Pamar qui ont collaboré sur une track. Personnellement, j'ai kiffé déjà de savoir que le tonton, le rookie et le pianiste étaient sur un même morceau. J'ai trouvé le son très cool. Le piano de Sofiane Pamar était vraiment bon. On a aussi des rythmiques par-dessus le piano qui ajoutait vraiment une ambiance super bonne au son. Les deux parties sont bonnes. Toi, Zayan, je suis sûr que t'as kiffé le son.
Évidemment, dès qu'il y a Rimka dedans, de toute façon... Ouais, voilà. Voilà, moi, je kiffe. Franchement, je suis ébahi par la capacité de Rimka à s'épanouir dans tous les styles qu'il va faire.
Ouais, bah c'est vrai qu'on en avait parlé le mois dernier et je pense qu'on va se répéter parce que à chaque fois, Rimka réussit à se renouveler, réussit à fitter avec des nouvelles personnes et vraiment, c'est chaud. Bravo.
Ensuite, on a une grosse surprise puisqu'on a eu l'EP de Tiakola prénommé X, suivi du clip du même nom. Alors voilà, je suis pas un grand fan de l'EP, mais il n'empêche qu'il faut souligner que pour moi, Tiakola essaye de se renouveler. Il l'avait déjà fait avec La Mélo et Gangs, où même si c'est pas un album que je vais écouter tous les jours, hein, je vais être honnête, on voit quand même qu'il avait essayé d'aller voir des producteurs londoniens, d'aller tenter de nouvelles sonorités comme African Badman et Mami Wata qui est en train de tout casser sur TikTok. Le son X, personnellement, c'est ce que j'ai le plus kiffé dans l'EP. T'en penses quoi, Adrien ?
Et bah comme toi, X, c'est le son que j'ai le plus retenu de l'album. Personnellement, j'ai écouté l'album une fois et j'ai trouvé ça un peu oubliable. Après, faut noter que moi, je suis pas forcément une personne qui apprécie la musique de Tiakola, bien que je la dénigre pas, tu vois. C'est pas le mec que je vais aller écouter tout le temps. Par contre, déjà, gros respect à la veste qu'il a portée dans son clip là avec les LED.
La dingue avec les LED.
Ça, c'était pas mal, ça. Ensuite, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que tu dises qu'il se renouvelle. Moi, j'ai trouvé vraiment que La Mélo et Gangs, c'était pas du tout du renouvellement. On sait que ça va marcher. Ils ont un public. Là, avec TikTok, il y a des trends qui se sont formés, par exemple, sur Mami Wata, je crois.
Voilà, c'est ça, exactement. D'ailleurs, j'en profite pour dire que, de temps en temps, au moment où on a fait le podcast, le mois dernier, il était top 16. Maintenant, il est top 1 Spotify. Voilà.
On se demande pourquoi. On n'en parlera pas.
C'est vraiment... Mais c'est n'importe quoi, la puissance
de TikTok.
Non, mais
la puissance de TikTok, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Hein. Mais par contre, si j'avais une chose de bonne à dire sur ce projet-là, c'est que je trouve que Tiakola s'entoure de super bonnes personnes. On voit, comme tu l'as dit, qu'il s'était entouré de producteurs londoniens. Et puis même sur ce projet, il a bossé avec des gens de l'équipe de La Fève. Je pense par exemple à Liele qui l'a beaucoup aidé sur le projet. Je trouve que des mecs comme ça, ça peut lui permettre justement de se renouveler artistiquement.
Alors Adrien, on passe ensuite à Elkmer.
Ouais, Elkmer qui a sorti un projet, KGU. Alors Elkmer, si vous connaissez pas, c'est un mec qui rappe, qui sait rapper et qui continuera de rapper, je le pense. Franchement, le projet, je l'ai trouvé super bon. Il y a des grosses fulgurances. Je pense par exemple au son Polistu. Je sais d'ailleurs que Zayan, c'est ton son préféré du projet. Je pense aussi à Harakiri. On a des super bons featuring. Un avec Solalune qui s'appelle Jardin, qui a super bien marché, je crois. Et KN24 avec Osiris Jack, que j'ai aussi trouvé super bon. Franchement, le projet m'a beaucoup plu et je vous invite à aller l'écouter. Cette première semaine de mars, on a aussi eu un projet qu'on attendait beaucoup et auquel on a parlé le mois dernier. Il s'agit du projet de Luther, Exit. Alors perso, j'ai été super surpris de la proposition apportée justement par l'artiste. Il y a vraiment un changement par rapport à l'univers Garçon, qui était son premier projet avec Sublime. Personnellement, au début, ça m'a un peu brusqué. Je m'attendais pas à des sonorités comme ça, à des partis pris comme ça. Je l'ai trouvé beaucoup plus honnête que sur le premier projet. On sent qu'il grandit et c'est ce que j'aime bien avec cet artiste, c'est que au fur et à mesure de ses projets, on sent une évolution à la fois artistique et juste à la fois humaine du mec. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un nouveau parti pris, ça change d'avant, il faut s'y faire. Toi Zane, t'en as pensé quoi ?
Alors oui Adrien, honnêtement moi j'ai bien aimé le projet. Il y a des sons que je vais retenir, moi aussi Cobblestone, voilà, désolé, pardon. C'est vrai que le mois dernier, j'ai dit oui, non, pas dingue. Au final, je me suis habitué, je me suis pris.
Au final, on s'y fait.
Voilà, c'est ça. Et U-Squad, j'adore. Tout ce qui me fait bouger la tête, de toute façon, ça marche avec moi. Donc franchement, bravo Luther. On va passer à la deuxième semaine dès maintenant.
Cette deuxième semaine de mars, on a eu droit à une collaboration entre la Belgique et l'Allemagne avec Hamza et Rizzi sur le son Penny. Franchement, le son est incroyable, je vous invite à aller l'écouter. Hamza, tu es trop fort. Même Rizzi, que je connaissais pas à la base, j'ai trouvé que son couplet était super bon, même si je comprends rien à ce qu'il dit. J'ai trouvé que la top line, j'ai trouvé que le mix était super bon. Hamza arrive comme un dieu, continue comme un dieu et finit comme un dieu. Hamza, meilleur rappeur de Belgique. On l'aime, je suis une groupie, j'assume, c'est carré.
Meilleur rappeur de Belgique, carrément, Adrien.
Ouais, bah... peut-être que je m'emporte un peu, mais vraiment, personnellement, dans mes goûts à moi, je trouve qu'il a enchaîné des projets de fou. Là, récemment, on avait eu Sincèrement.
Dingue.
Ouais, qui était très bien et qui lui avait fait passer un autre step. Sur les feats, presque à chaque fois, c'est réussi. Je trouve que ce feat, ça en est un parfait exemple. Vraiment, l'alchimie entre les deux se passe super bien. Les deux sont super chauds.
Et d'ailleurs, il y a aussi Drifté, que moi, j'ai vraiment kiffé. Mais Hamza Fidrizi, encore mieux. Encore mieux. Ensuite, on a le rappeur Danil. Alors, la spécificité de ce rappeur, c'est qu'il est aussi streamer. Et en fait, ce sont des sons qui ont été faits en live. J'ai un gros coup de cœur pour L'Amour, c'est pour les autres, feat RN Boy. Et d'ailleurs, RN Boy, on l'avait déjà perçu dans le dernier projet de Kershak. C'est le son que j'ai le plus streamé de ce mois. Gros coup de cœur, allez écouter.
Il y a aussi Jeune Lion qui a sorti son projet Esso Dieu. T'en as pensé quoi ?
Et bah, Jeune Lion, bonne surprise. J'ai vraiment kiffé l'album de Super Prod, Babylone Brûlée. Déjà, super intro. Je trouve que ça met grave dans l'ambiance.
Ouais, on remerciera Osiris Jack qui a fait les travaux.
J'apprécie aussi Lion le Tsunami. Grave bien, il kick de fou. La prod digne d'un jeu Nintendo, pourquoi pas, moi ça m'a fait triper.
On a aussi Stavo qui a sorti un son, il y a Bekar qui a sorti la réédition de son album Plus Fort que l'Orage qui s'appelle Plus Fort. En troisième semaine, on a Grid Montana qui a drop le premier extrait de son futur album So Dad. Le son c'est Phileas Fogg. Personnellement, comme je l'ai dit juste avant, Green, j'adore ce mec, mais il me faut un petit peu de temps pour pleinement apprécier le son. Vu qu'on parle de Green et de son premier extrait qu'il a sorti, cette troisième semaine, je me permets de jumper un petit peu et d'aller jusqu'à la quatrième semaine, car une semaine après, il a sorti le deuxième extrait qui s'appelle Ishtar. Et encore une fois, le son est bon, mais je sais qu'il me faut un petit peu de temps pour apprécier le titre à sa juste valeur. Je vous invite à aller écouter les extraits et à vous faire votre propre avis dessus.
On a aussi eu l'artiste Jay Bruni qui nous a sorti Mélodie Céleste. Franchement, grave cool, le mood, j'ai kiffé. C'est un son un peu introspectif. Le refrain, j'adore. Le clip, il est en 3D et franchement, ça rend super bien. Je vous conseille à tous de l'écouter pour vous faire votre propre avis sur cette voix si singulière.
Et évidemment, on ne peut pas parler de cette troisième semaine sans passer par l'Atlantique, arriver aux États-Unis et parler de l'album en collaboration de Metro Boomin et de Future. Alors.
Ah, Adrien, là, il kiffe.
Ouais, bah déjà, j'attendais beaucoup l'album parce que Future, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Au sujet de Metro Boomin, honnêtement, avant que ça sorte, j'étais en mode bon, Metro Boomin, je l'aime bien, mais je m'attends pas à quelque chose de fou au niveau des prods. Et ben, j'ai été surpris parce que, encore une fois, il a plié des prods de fou.
Excusez Adrien, il est complètement fou, mais Metro Boomin, il a un palmarès. Comment on peut pas kiffer ce gars ?
Non, mais c'est pas que je le kiffe pas, mais justement, au vu de son palmarès, il est à beaucoup d'endroits. Et justement, à un moment, moi, j'en avais pas un ras-le-bol, mais il était de partout et j'avais juste envie d'écouter autre chose que du Metro Boomin. Après, justement, ça ne veut pas dire que je l'aime pas. Au contraire, ce mec est trop chaud. Mais justement, je ne m'attendais pas à quelque chose de fou. Mais il a réussi à me prouver le contraire. Je pense par exemple avec des prods sur le son Ice Attack, de Type Sheet,
très fort.
De Cinderella, que j'ai beaucoup kiffé en featuring avec Travis Scott. Évidemment, du son Like That, on en reparlera un petit peu plus tard. Et sur le plan général, vraiment, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun son de réellement mauvais. J'ai trouvé que la collab Future, ça marche super bien. Future, on peut lui reprocher qu'il fasse généralement souvent la même chose. Alors oui, c'est vrai, il se renouvelle pas forcément énormément, mais personnellement, au fur et à mesure de ses projets, j'arrive encore à le suivre, j'arrive encore à kiffer. Toi Zane, t'en as pensé quoi ?
Bah moi franchement Adrien, dès qu'il y a Metro Boomin sur le nom de l'album ou du titre ou de tout ce que tu veux, je clique, j'écoute et je like directement. De gros sons, comme tu l'as dit, Type Sheet, Like That. J'apprécie d'ailleurs ce dernier son puisque déjà la prod est incroyable. Tout l'album a un énorme boulot sur les transitions.
Ah, c'est vrai que les transitions, c'est très chaud entre les sons. Ça m'a vraiment fait kiffer aussi.
C'est ça que j'ai kiffé dans l'album, c'est que les transitions sont tellement bien travaillées, tellement smooth que l'album, tu peux l'écouter d'une traite et ça passe tout seul.
Ouais, je suis d'accord, t'as grave raison. Les transitions, elles étaient vraiment lourdes. Aussi, évidemment, vu que c'est Future, il y a eu des très gros feats. On va directement penser au son Type Sheet en featuring avec Travis Scott et Carti. Carti qui nous lâche une énorme bombe comme d'hab. Mais moi, perso, j'ai trouvé que le moment le plus incroyable du son, c'était le passage de Travis qui nous envoie sur une autre planète. C'était incroyable. On a aussi un featuring juste avec Travis Scott qui est Cinderella. Je pense que c'est mon son préféré de l'album. Il y a aussi de l'intro que j'ai beaucoup kiffé, We Don't Trust You, qui porte le nom de l'album, que j'ai beaucoup aimé. Et évidemment, sur le feat
avec Kendrick. Kendrick tire sur Drake et J. Cole pendant tout un couplet. Les réseaux sociaux sont vite emparés du couplet et ont crié à justement une déclaration de guerre. Déclaration de guerre qui est peut-être vraie, hein, parce qu'on sait que Drake, quand on le clash, il s'énerve très vite et il répond aussi très vite. On attend de voir la suite, mais en tout cas, c'est fortement possible qu'après ça, le rap américain ait vraiment changé pour plusieurs années. Il va y avoir des camps qui vont se créer et en vrai de vrai, hâte de voir comment ça va se passer. On a aussi J9V qui nous a sorti un EP, Nueve Season. Alors déjà, l'EP, je l'ai trouvé bon. Personnellement, je reste un petit peu sur ma faim. Pourquoi ? Parce qu'en fait, bah, je suis un rageux et que j'adore Green Montana. Lorsqu'il a teasé le projet, J9V avait annoncé 6 titres sur le projet. Sauf que parmi les 6 titres, on n'en retrouve que 5 qui ont été drop sur les plateformes. Et en fait, le 6e, c'était un featuring avec Green qu'ils avaient rec. Ça avait été confirmé par J9V lui-même. Sauf que, pour des raisons un peu obscures dont on ne connaît pas, le feat n'a pas pu sortir. Je suis un petit peu dégoûté parce que je pense que ça aurait pu vraiment donner une collaboration intéressante. Mais bon, dans son ensemble, le projet reste quand même bon. J'ai pas mal kiffé l'intro. Pour le reste, je me le suis pas pris en pleine face, mais ça reste bon.
Gros coup de cœur d'ailleurs pour Hold Up, personnellement.
On a aussi Bébé Jack qui nous a sorti un 3 titres qui s'appelle Horizon 25. Franchement, j'ai kiffé. Ces 3 sons, ça se suit, il y a des petites transitions qui font plaisir. Ça a été accompagné d'un clip justement qui met en scène ces 3 titres. J'ai particulièrement aimé le dernier titre qui s'appelle Benny. Bébé Jack, il sait ce qu'il fait. Il a annoncé dans ce EP qu'il travaillait sur un album. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite.
Honnêtement, bonne surprise pour moi qui de base n'aime pas trop Bébé Jack, que je trouve justement un peu son flow un peu trop découpé, en dehors des temps, un peu trop différent de ce que je connais d'habitude. Mais je trouve bizarrement que sur cet EP, ça se sent moins.
Écoute, moi j'ai pas eu forcément cette impression là parce que je l'écoute depuis pas mal de temps et je me suis un peu fait au fur et à mesure à sa manière de poser. Maintenant, ça me dérange plus du tout, et même au contraire.
Ah bah parce que moi, justement, sur cet EP, je pense que c'est un peu moins découpé qu'avant. Je trouve, en tout cas, c'est ce que je ressors de l'EP.
Et bah écoutez, si vous n'avez pas encore écouté, peut-être que ça peut être une meilleure porte d'accès que ces autres
voilà,
projets, justement.
Honnêtement, c'est ça.
Et enfin, on a un Lyonnais, un Réunionnais qui nous a droppé son projet qu'on attendait beaucoup. Ce Réunionnais, c'est Bushy, qui a sorti la Bushy Tape 3. Zayan, parle-nous-en.
Ah là là, alors Bushy, l'intro, Révolution, j'adhère. Franchement bien. What We Doing, feat Quavo. Honnêtement, on en a parlé le mois dernier. On s'est dit, est-ce que voilà, dans le temps, ça va rester et tout. C'est un bon son. C'est plaisant à écouter. Mais voilà, je reste quand même sur ma faim. Dinos, grave intéressant. Voilà, Dinos, j'adore ses apparitions qu'il nous fait comme ça. Dernièrement, bon voilà, c'est pas un exemple de dingue, mais il était apparu dans l'album commun avec Dadju et Taiki. Et dernièrement, j'adore ce qu'il fait. Si je devais donner 2 autres coups de cœur à ce projet, je dirais Poison et Océane avec SDM. Voilà, le mec, il est partout. Incroyable.
Ouais, c'est vrai qu'SDM, on le voit souvent. Alors personnellement, au sujet des feats, j'ai pas trouvé que c'était... Je trouve que Bushy a plus brillé dans les sons où il est en solo. Moi, ce que je peux déjà retenir de l'album, c'est déjà des productions de fou. Il les avait annoncées et on s'en doutait, mais il y a un gros taf justement au niveau des prods sur l'album. J'ai trouvé le feat avec Quavo plutôt bon, mais surtout très beau pour la symbolique. Les feats avec Dinos et SDM, en fait, j'ai trouvé que les parties individuellement étaient bonnes, mais qu'il n'y avait pas forcément une super alchimie entre les deux artistes. On a aussi un feat avec Reda que j'ai apprécié, mais que j'ai plus apprécié justement pour la partie de Reda plus que celle de Bushy. Par contre, au niveau des sons solo, vraiment, il m'a régalé. Je pense au son Révolution, je pense au son Batman, je pense au son Conlan ST qui, à mon avis, est mon top 1 de l'album. On a aussi des sons avec des prods de fou. Je pense à La Veille, je pense évidemment à l'outro Art qui est vraiment exceptionnel. On voit vraiment que la Bushy a passé un nouveau step, à la fois artistiquement, à la fois je pense que ce projet va lui permettre encore une fois d'avoir les caméras rivées sur lui et d'augmenter sa fanbase, et j'en suis très content.
Merci à tous de nous avoir écoutés pour cette 2e édition du Studio 808. C'était Adrien et Zayan. On se donne rendez-vous au mois prochain. Il va y avoir de grosses chroniques. Je l'espère, une super interview, de nouveaux invités. Merci à tous et à la prochaine.